RTL Matin.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez Benoît Hamon, député socialiste des Yvelines et ancien ministre.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Ce soir, vous allez retrouver Myriam El Khomri au bureau national du Parti Socialiste. Qu'allez-vous lui dire, qu'il faut retirer le texte ?
Je pense que cette étape serait sans doute la meilleure mesure, même si j'attends de voir quelles sont les propositions qu'elle fera pour améliorer ce texte. Mais on aura l'occasion d'échanger sur ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait tant de jeunes actifs qui soient aujourd'hui opposés à ce texte parce qu'ils travaillent, ou ils aimeraient travailler un peu plus qu'ils ne travaillent, dans le secteur privé. Ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les conditions de travail difficiles, et ils voient, ils mesurent très concrètement dans leur vie les conséquences qui seraient négatives en termes de conditions de travail
de
ce texte.
Les jeunes, justement, voient surtout les conditions négatives ou les conclusions négatives des conditions de travail aujourd'hui avec la méthode actuelle. Pourquoi ne pas en essayer une autre ?
Non mais vous avez raison, moi je ne me satisfais pas du statu quo, pas davantage que les opposants à ce texte, j'imagine. Parce que en l'occurrence, aujourd'hui, le marché du travail, c'est essentiellement des CDD, des CDD courts, et il y a beaucoup de flexibilité en réalité sur le marché du travail. Et en soi, cette précarité-là n'est pas souhaitable. Mais un point mérite qu'on s'y attarde. Quand nous avons démarré ce quinquennat, nous avons supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour certains salariés, ça a été 50 euros en moins par mois, 80 euros, et je me souviens que nous avions été très critiqués. L'argument, c'était de dire, comme Nicolas Sarkozy a facilité le recours aux heures supplémentaires, ça s'est traduit par plus de chômage. Et François Hollande, à l'époque, avait estimé qu'il y avait eu 100 000 emplois non créés en lien avec la défiscalisation des heures supplémentaires.
Nous sommes en fin de quinquennat. Une erreur.
C'est, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si nous avions fait ça, ce que j'observe aujourd'hui, nous sommes en fin de quinquennat et nous allons faire quoi ? Nous allons, nous aussi, faciliter le recours aux heures supplémentaires, mais en faisant quoi ? En facilitant le fait qu'une heure supplémentaire ne soit plus payée 25%, mais 10% de plus
alors,
par accord
même,
d'entreprise.
Benoît Hamon, est-ce que vous n'êtes pas... hier, Manuel Valls disait, en fixant les conditions du licenciement, on casse les barrières à l'entrée du marché du travail, il faut en finir avec ces CDD à répétition. Et beaucoup d'économistes, dont Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, disent la même chose.
Oui, mais Jean Tirole, il est dans sa pensée classique.
Il dit pas forcément
des bêtises. Oui, d'accord, mais alors on pourra vous trouver beaucoup de Nobel d'économie qui pensent que ce sont des sottises. L'économie, vous savez, on n'est pas dans la biologie. On a le droit. Il y a des options et des options économiques qui amènent un économiste aussi réputé que Piketty, qui est aujourd'hui une référence aux États-Unis et partout dans le monde, ou Daniel Cohen, a pensé exactement le contraire de Monsieur Tirole. Donc je veux dire, sortons.
Alors prenons un cas concret.
Mais prenons
Monsieur Renzi en Italie de gauche, qui fait ça. Et il y a moins de chômage en Italie qu'il n'y en avait il y a un an.
Je reprends mon exemple d'avant. Si vous facilitez le recours aux heures supplémentaires, est-ce que ça facilite la création d'emplois ? Je suis chef d'entreprise. J'ai un pic de commandes. La situation est un peu tendue. Je suis un peu inquiet sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai un pic de commandes ? Faire travailler plus ceux qui travaillent déjà ou embaucher ? Si vous me permettez demain de payer mon heure supplémentaire, non plus 25% de plus, mais 10% de plus par simple accord d'entreprise, eh bien, j'augmenterai le temps de travail de ceux qui travaillent et je n'embaucherai pas. Eh bien, je pense que cette disposition-là, rien que celle-là, va avoir des conséquences sur l'emploi qui seront des conséquences négatives. C'est une des raisons pour lesquelles, sur le plan de l'orientation, ce texte est mauvais. Il me semble qu'il est, alors c'est un mot, il n'est pas joli, hein, mais contre-performant par rapport à l'objectif de lutte contre le chômage que s'est donné le président de la République.
Vous vous situez de quel côté ? Du côté de ceux qui veulent discuter, ce qu'on appelle les syndicats réformistes, comme la CFDT, ou bien du côté de ceux qui disent il faut retirer ce texte, comme la CGT, FO et certaines organisations étudiantes qui sont proches de vous d'ailleurs.
Non, bon, ça s'appelle le roman journalistique. Vous savez, il faut.
Ah bah non.
Non, mais je vous le dis, je pense que.
Proche,
non, mais.
Une F est proche de vous.
Non, elle n'est pas proche de moi.
Les jeunes socialistes aussi.
Ils sont grands maintenant, vous savez. Ils n'ont pas besoin d'un papa ou d'un tuteur ou d'un tonton. Heureusement. Non, mais je le dis parce que tout ça, ça participe aujourd'hui de légendes, voire même d'une forme d'instrumentalisation du débat politique en expliquant que les jeunes sont manipulés. Moi, je me souviens que quand j'étais moi-même jeune, on expliquait, quand on manifestait qu'on était manipulé, je savais à l'époque que je n'étais manipulé par personne. Eh bien, ceux de cette génération ne le sont pas plus que nous. Mais je reviens à ce que vous dites sur syndicats réformistes ou syndicats non réformistes. Je veux vous ne vous apprendrez rien en disant que Force Ouvrière ou la CGT signent des accords dans les entreprises, que la CFDT lui arrive de ne pas en signer. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui ont choisi de discuter, d'autres qui considèrent que la philosophie de ce texte n'est pas bonne. Respectons-les. Et j'imagine que Myriam El Khomri, qui va commencer à recevoir ces syndicats, va écouter tout le monde. J'observe quand même qu'on remet la question du plafonnement des indemnités aux prud'hommes qui avait fait l'objet déjà de beaucoup de critiques, notamment par les syndicats. Il a été remis dans ce texte qu'on va faciliter le licenciement avec un argument, vous reconnaîtrez, qui est assez amusant. Pour embaucher, faut faciliter le licenciement. Si on facilite le licenciement, pour commencer, pour commencer, on licenciera plus. Donc, c'est quand même pas d'une très grande logique que d'expliquer aujourd'hui que pour embaucher, il faut faciliter le licenciement. Puis ensuite, je vous le dis, sur le temps de travail, faciliter le recours aux heures supplémentaires moins bien payées, 10% au lieu de 25%, ce sera perdant pour le salarié qui travaillera plus, perdant pour celui qui tape à la porte de l'entreprise et qui n'y rentrera pas.
Alors, Manuel Valls et Myriam El Khomri disent contre-vérité, manipulation même, de la part de ceux qui critiquent ce texte, dont vous, par exemple. Votre cible, c'est qui ? C'est Manuel Valls. Vous dites que ce n'est pas la question, Manuel Valls, mais il incarne une forme de politique de gauche, quand même. Il y a là une sorte de quitte ou double qui est en train de se jouer sur l'identité de la gauche à venir.
Écoutez, moi, je ne joue pas au poker. Si Manuel Valls a décidé de faire tapis, ou de jouer à quitte ou double, je lui en laisse la responsabilité. Moi, je ne joue pas au poker avec ce que sont les droits des salariés, ce que sont les protections qui concernent ceux qui sont aujourd'hui à l'extérieur de l'emploi comme à l'intérieur. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels on fait
tapis en
politique.
Si son projet passe, il aura gagné. La gauche aura une autre orientation que celle que vous souhaitez.
Et beaucoup y auront perdu. Et c'est pour ça que moi je me concentre sur aujourd'hui une discussion avec le Premier ministre, dont j'observe que le ton est plus ouvert dans l'interview qu'il a donnée hier au Journal du Dimanche qu'il ne l'était jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent on avait des déclarations un peu martiales, j'irai jusqu'au bout, c'est nécessaire. Aujourd'hui, dire que l'on veut réformer en soi... Si on ne dit pas dans quel sens on va, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça s'appelle le bougisme.
Vous voulez...
Moi, l'immobilisme, je le constate partout. Mais je vais vous donner un sujet sur lequel je constate
vous
que
voulez
le gouvernement
réformer justement le burn-out, vous voulez une loi sur le burn-out, les conséquences psychologiques de la pression au travail, sauf que l'Académie de médecine dit bon, c'est absolument impossible à qualifier.
Voilà, c'est comme par hasard, là, on n'est pas dans le déni. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des troubles psychiques liés au travail... Tout le monde les constate dans son entreprise, mais ensuite ça devient trop compliqué. Le burn-out, c'est un mot générique.
C'est les médecins.
C'est un mot générique.
Mais
moi, je suis d'accord, ce n'est pas une maladie. C'est un syndrome d'épuisement qui se traduit à la fin par quoi ? Une anxiété généralisée, une dépression ou un stress post-traumatique. Cette réalité-là, liée au travail, qui fait qu'il y a tellement de pression que vous vous effondrez, elle est constatée partout. Eh bien, il n'y a que la France qui soit dans un tel déni par rapport à ces troubles, ces pathologies psychiques liées au travail. C'est la raison pour laquelle, et ça aurait pu être l'occasion avec cette loi, je souhaite qu'il y ait une reconnaissance de ce syndrome d'épuisement professionnel, de ces pathologies psychiques liées au travail, et qu'elles puissent être prises en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle, ce qui nous permettrait de faire de la prévention, plutôt que de réparer tout le temps les dégâts d'une mauvaise organisation du travail, tant le public comme dans le privé. Ce n'est pas qu'une affaire du secteur privé.
Merci Benoît Hamon.